Je vais passer la parole à Rémi Jeannin qui va nous planter le décor et nous expliquer comment il perçoit son métier, son rôle et la façon dont les institutions s'en occupent.
Je vais commencer en fait par un exposé où je vais partir du principe que vous ne savez rien des sciences économiques et sociales pour planter un peu le décor. Donc après, pour pouvoir tracer, donc, puisque le thème c'est les perspectives, donc il y a l'actualité des sciences économiques et sociales et aussi quelles perspectives on peut tracer à partir de cette actualité-là. Voilà. Alors d'abord, donc un petit peu d'histoire, hein, c'est un enseignement qu'on présente comme jeune, mais qui a atteint une certaine maturité puisqu'il a 40 ans. C'est un enseignement qui a été créé à la demande du général de Gaulle, il faut savoir ça, par son ministre de l'Éducation, Christian Fouchet, en 67. Et l'objectif était, à l'époque, donc on était à la fin des Trente Glorieuses, hein, de développer la culture économique, sociologique et politique des lycéens pour qu'ils puissent mieux comprendre les grands enjeux contemporains. Donc en combinant une pluralité de sciences sociales, dès le départ, il a été question de combiner donc l'économie, mais également la sociologie, et puis ensuite progressivement d'autres contenus de sciences politiques se sont rajoutés par exemple, donc plusieurs sciences sociales, et de l'anthropologie éventuellement aussi dans tel ou tel item du programme, etc. Ce que je vais présenter ici, donc sans rentrer bien sûr dans les détails de cette évolution-là, on a 40 ans d'histoire, je vais présenter ce qui me paraît être une réussite, parce que en fait, je vais me baser ici pour l'essentiel sur la partie bilan qui était celle du rapport Guenry, de la commission Guenry, et sur certaines statistiques également qu'on peut trouver sur le site du ministère de l'Éducation, qu'on trouve dans l'annexe statistique également du rapport Guenry. Donc on peut présenter à la fois en quoi cet enseignement est une réussite du point de vue de l'attractivité qu'il a pour les élèves, du point de vue de la réussite qu'il permet aussi dans l'enseignement supérieur pour les élèves qui ont suivi ce cursus-là. Et en même temps, en fait, je vais présenter très rapidement, schématiquement, les attaques que cet enseignement a subies, en particulier depuis 2007, et pour montrer un petit peu justement comment les évolutions actuelles avec la réforme du lycée ont plus ou moins tenu compte de certaines critiques, et quel est le sort qui est réservé à cet enseignement actuellement dans les évolutions très récentes, en fait, depuis un an à peu près, avec la réforme du lycée mise en place par Luc Châtel. Et ensuite, quel bilan on peut faire de ces réformes-là, à la fois en termes de structure, de place de l'enseignement, mais aussi en termes de contenu, avec des nouveaux programmes qui sont sortis l'an passé. Alors, au passage, c'est un excellent sujet, moi, il me semble, pour des personnes qui s'intéressent à analyser les organisations, parce que ici, l'écart me semble assez patent entre l'évaluation des réussites qu'on peut donner sur la base de certaines statistiques et certaines remises en question actuelles, qui sont des remises en question assez radicales. Et il y a un écart assez flagrant entre les deux, et en tout cas qui ne manque pas d'interroger. Voilà. Et le fait aussi que la parole des enseignants, en tant que porte-parole de cette association-là, c'est vrai que la parole des enseignants est très peu écoutée dans les débats actuels, et en tout cas par les institutions également. Alors, donc, je vais commencer par présenter une sorte de bilan rapide, puis après, donc, brosser rapidement les attaques que cet enseignement a reçues, puis ensuite, les évolutions actuelles et les perspectives qu'on peut tracer. En termes de bilan, on peut d'abord constater ce que fait le rapport Guenry, c'est un rapport qui est sorti en juillet 2008, qui essayait de faire une sorte de bilan global suite à des années d'attaques contre cet enseignement-là et qui essayait de prendre un petit peu de recul avec un travail de fond. Donc le bilan qu'on peut tirer de cet enseignement, c'est un enseignement attractif et qui fait réussir les élèves. Alors avant de tracer ce bilan-là, on peut juste rapidement décrire quelle est la place des SES dans l'enseignement globalement. D'abord, il faut savoir que c'est un enseignement qui est absent du collège. C'est un enseignement qui n'est présent que dans le lycée général et technologique, c'est-à-dire qu'il est présent comme enseignement optionnel en seconde. Donc on verra avec un statut qui a un petit peu évolué. Et c'est ensuite un enseignement qui devient l'enseignement pivot, on va dire, de la série ES, la série économique et sociale, qui est l'ancienne série B. Voilà. Et donc un enseignement qui a le plus fort horaire et le plus fort coefficient, mais qui a des liens très très forts aussi avec d'autres disciplines de cette série, que ce soit l'histoire-géographie, que ce soit la philosophie, les mathématiques également, qui sont réutilisées dans cet enseignement, les langues vivantes également. Voilà. Alors, un constat préalable qu'on peut faire, c'est que depuis son introduction en 67, le pourcentage d'élèves qui suit cet enseignement dans le cycle terminal n'a fait que croître. Quasiment. C'est-à-dire qu'on est passé d'un enseignement qui touchait un peu moins de 15 000 élèves en terminale B lors du premier bac en 69 à un enseignement qui aujourd'hui touche plus de 100 000 élèves. Alors évidemment, il y a une progression en parallèle aussi, une massification de l'enseignement au lycée, mais c'est devenu aujourd'hui l'enseignement pivot de la deuxième série du bac en termes d'effectifs, derrière la série S. Donc si on prend le lycée général, aujourd'hui dans la série S, la moitié des élèves suivent la série S et on a un tiers à peu près des élèves qui sont dans la série ES et le reste qui va dans la série L. Voilà. Et c'est un enseignement qui est passé depuis la dernière grande réforme qu'il y a eu en fait au lycée, c'était la réforme langue. Donc dans les années 92-93, il est passé d'environ un quart des élèves du cycle terminal à presque un tiers. Donc il a progressé. Alors que les autres enseignements, alors c'est vrai que la série L a reculé et la série S a maintenu son hégémonie. Voilà, on peut dire en tout cas que c'est la série ES, en fait, c'est plutôt bien maintenu par rapport à cette hégémonie de la série S. Voilà. Alors comment expliquer qu'un nombre toujours croissant d'élèves souhaite suivre cet enseignement au sein de la série ES ? Ça nous conduit directement à en faire le bilan. D'abord, il faut voir que c'est un enseignement qui ouvre des perspectives de réussite assez variées après le bac ES. Voilà. C'est un constat pourtant qui a été remis en question par des interventions médiatiques, en particulier Xavier Darcos avait déclaré en septembre 2007 que c'est un enseignement sans débouché évident. En fait, les statistiques permettent de démentir véritablement cette affirmation. D'abord, on pourrait se demander comment on pourrait évaluer la qualité des débouchés d'un enseignement. Moi, il me semble qu'on pourrait faire quelque chose de très simple, c'est regarder un petit peu le profil des élèves qui rentrent dans le cycle terminal en ES, d'accord, donc en première ES, et ensuite les poursuites d'études qu'ils font après. Alors, pour cela, en fait, on s'aperçoit qu'en termes de recrutement, la série ES a un recrutement qui est large et qui est relativement plus mixte que la série S. On a, donc ça c'est également dans l'annexe du rapport Guenry, en première S, il y a à peu près 40% d'enfants de cadre aujourd'hui. Donc c'est une surreprésentation assez nette. Alors qu'en série ES et L, c'est à peu près 25% d'enfants de cadre. Donc un enseignement qui est, en tout cas, socialement moins discriminant. Également en termes de niveau, si on regarde par rapport aux notes qui étaient obtenues par exemple au collège, on s'aperçoit que le niveau en mathématiques, ça ne surprendra pas grand monde, est beaucoup plus élevé pour les élèves qui rentrent dans la série S que pour les élèves qui rentrent dans la série ES. C'est vraiment cette discipline-là qui est assez discriminante. Très simplement, en fait, si on découpe en quatre quarts les élèves qui rentrent en première S, bah, en fait, on a 50% de ces élèves-là en première S, qui faisait déjà partie du quart le plus fort en mathématiques au collège. Alors que si on prend la série ES, en fait, on a 25% des élèves qui rentrent en ES qui faisaient partie du quart plutôt le plus faible. Voilà. Vraiment, c'est l'enseignement de mathématiques, on s'aperçoit, qui discrimine les trois séries, parce que c'est pire en L, où les élèves, véritablement, choisissent cette série-là plutôt pour échapper un peu aux mathématiques. Il y a des mathématiques encore assez présentes dans le bac ES. Donc c'est un recrutement large et relativement mixte socialement. Mais les débouchés après le bac, en fait, sont assez variés, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des orientations vers des filières sélectives, vers des filières moins sélectives à l'université, par exemple. D'abord, on s'aperçoit qu'il y a une dominante dans l'orientation des filières du supérieur où l'économie ou les sciences sociales apparaissent comme discipline dominante. Dans le rapport Guenry, en fait, on note qu'il y a même 52%, donc c'était en 2007, des élèves après un bac ES, qui s'orientait vers des études dans le supérieur où l'économie tient une place importante. Ça peut être évidemment les facultés d'économie et gestion, où en fait les bacheliers ES sont le plus gros contingent, c'est presque la moitié, enfin c'est 45% à peu près de ces étudiants-là. Mais c'est également, bien sûr, les BTS, les IUT, c'est les IEP, les instituts d'études politiques, c'est des classes préparatoires aux écoles de commerce comme celle-ci. Voilà, donc classes préparatoires ECE, voie économique. Et on s'aperçoit donc en termes de taux de réussite, c'est que les taux de réussite des bacheliers ES sont bons et même très bons à l'université, donc avec des taux très bons en particulier en droit et en sciences humaines, mais également en économie, donc avec, c'est vrai, des taux de réussite un petit peu meilleurs pour les bacheliers ES, avec un niveau de mathématiques qui doit jouer en leur faveur. Mais si on prend sur l'ensemble des trois années, on s'aperçoit qu'en fait, on a à peu près des taux comparables, des pourcentages d'élèves qui arrivent à obtenir leur licence d'économie-gestion, hein, globalement, que ce soit des élèves issus de la série S ou ES, alors que les élèves de la série L ou des séries technologiques en fait décrochent plus rapidement. Voilà. On s'aperçoit également que les élèves de la série ES sont ceux des trois bacs généraux qui réussissent le mieux en IUT et en BTS. Je vous épargne les statistiques, voilà, vous pourrez vous référer à ça. Mais également, on s'aperçoit qu'ils sont très présents dans des filières parfois très sélectives, donc comme par exemple les grandes écoles de commerce, donc avec ces classes préparatoires ECE. On a les bacheliers ES qui représentent en fait 44% de ces classes préparatoires économiques et commerciales, toutes spécialités confondues, c'est-à-dire générales et économiques inclus, et près de 40% des admis dans une des 24 écoles de la Banque commune d'épreuves. Vous savez, cette Banque commune d'épreuves qui regroupe HEC, le SCP ici, l'EDEC, etc. Donc, autrement dit, un assez fort bataillon de bacheliers ES qui arrive à rentrer dans des écoles de commerce qui sont relativement cotées. Pourtant, en fait, Nicolas Sarkozy avait déclaré il y a 2 ans qu'il y a un bac économique en France, mais c'est une blague parce que les élèves ne peuvent pas rentrer dans les écoles. Donc, il parlait d'écoles d'économie, mais en fait, il pensait les écoles de commerce. Non, c'est une erreur. Les bacheliers ES sont très largement présentés à l'ESCP, à l'EDEC, à HEC, etc. Alors, donc, c'est un enseignement qui ouvre des perspectives de réussite. Puis, on pourrait terminer par citer les IEP, les instituts d'études politiques. Ils vont jusqu'à faire, dans les grands IEP de province, on a des pourcentages de 60% à peu près des étudiants d'IEP qui viennent du bac ES. C'est un petit peu moins, je n'ai pas la statistique, c'est un petit peu moins en tout cas à Paris, où c'est plus sélectif. Mais globalement, en fait, c'est un débouché aussi assez valorisé pour les bacheliers ES. Alors ça, c'est le volet réussite. Donc on peut comprendre que des élèves de seconde souhaitent s'orienter vers ce bac-là, puisqu'en fait, on s'aperçoit qu'avec un recrutement social qui est moins favorisé que le bac S, à l'exception évidemment des études proprement scientifiques, où évidemment il y a quelques élèves malheureux qui vont s'orienter en médecine et faire une année de remise en niveau et qui ne réussissent pas trop, c'est pas fait pour ça, mais dans les séries où ils sont bien préparés par les enseignements qu'ils ont suivis, et en particulier l'enseignement de SES, il ne semble pas en tout cas que l'enseignement de sciences économiques et sociales soit un handicap, bien au contraire. Voilà. Alors ensuite, donc, le facteur réussite peut expliquer un petit peu l'attirance de cet enseignement, mais au-delà de ça, en fait, on s'aperçoit que c'est un enseignement qui est attractif et qui est apprécié par les élèves. Alors on a des indices de cela à travers des enquêtes qu'a fait l'Éducation nationale. Donc en particulier, alors maintenant ça date un petit peu, ça a 12 ans, mais à l'époque où Claude Allègre était ministre de l'Éducation nationale, il avait commandé une grande enquête à Philippe Mérieux, certains s'en rappellent peut-être. C'est la dernière grande enquête auprès des lycéens. Il y avait 1 812 000 questionnaires, je crois, voilà, qui ont été renseignés, et où on demandait aux élèves un petit peu quelles sont les appréciations qu'ils donnaient sur les enseignements qui étaient suivis au lycée, et avec donc une analyse assez fine sur qu'est-ce qu'ils valorisent, qu'est-ce qu'ils dévalorisent, qu'est-ce qui suscite l'intérêt ou pas. Et donc cette enquête a été ensuite un petit peu synthétisée et reprise par Roger Establet, le sociologue, dans un ouvrage qui est sorti en 2005. Et il apparaît en fait que parmi les enseignements, donc certains sont valorisés en termes de poursuite d'études, c'est notamment le cas des mathématiques et des sciences, on va dire des sciences expérimentales, de la physique, de la biologie, mais moins en termes de finalité personnelle. Ces enseignements-là, les élèves ont du mal à voir en quoi ces enseignements-là les aident à se situer dans le monde contemporain. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'enquête. De l'autre côté, on a des enseignements qui sont plus valorisés en termes de finalité personnelle, d'arriver à se situer dans le monde contemporain. C'est les humanités, on va dire l'histoire-géographie, la littérature, mais également la philosophie, mais moins en termes de facteurs de réussite pour la poursuite d'études ensuite. Et on s'aperçoit qu'il y a 2 enseignements qui sont valorisés par les élèves à la fois en termes de finalité personnelle pour arriver à mieux se situer dans le monde qui les entoure et donc contribuer à leur formation citoyenne, mais aussi en termes de facteurs de réussite pour la poursuite d'études, c'est les langues vivantes, que les élèves perçoivent bien comme absolument nécessaires, mais aussi les sciences économiques et sociales. Voilà. Si je passe rapidement aux critiques, face à ce bilan qui est relativement positif, on s'aperçoit qu'il y a une critique essentielle qui apparaît médiatiquement, un enseignement qui est accusé d'avoir un biais idéologique. Alors, c'est intéressant de revenir un petit peu sur les... Il y a 2 types de critiques un petit peu de ce biais idéologique. On s'aperçoit que ces 2 critiques qui sont, d'ailleurs que Michel Berry a un petit peu exposé, qui sont partiellement contradictoires. C'est d'un côté, on a des critiques, en particulier, donc on avait une association qui s'appelle Positive Entreprise, qui avait fait un rapport sur les manuels de sciences économiques et sociales, et qui dénonçait l'idée en fait que l'entreprise réelle, le terrain, n'apparaît pas en fait dans cet enseignement-là. La réalité concrète de l'entreprise avec un grand E, enfin que on a peut-être du mal à identifier, n'apparaîtrait pas. Donc un enseignement qui manquerait de concret en fait, et qu'il faudrait donc rendre moins abstrait et plus proche du quotidien, de ce que vit un chef d'entreprise, de ce que c'est que entreprendre, etc., etc. De l'autre côté, on a une autre critique qui vient aussi partiellement du monde de l'entreprise, dans la personne par exemple de Michel Pébrot, mais peut venir aussi parfois de certains universitaires, c'est l'écart en fait entre cet enseignement-là et ce qui existe dans le supérieur. L'enseignement de l'économie ou de la sociologie dans le supérieur, c'est un enseignement qui est accusé au contraire de ne pas fournir les bases du raisonnement en économie ou en sociologie et de privilégier trop de questions contemporaines au détriment en fait des bases du raisonnement en économie et en sociologie. Alors, on voit deux critiques ici qui sont contradictoires. Donc cette deuxième critique est allée très très loin puisque en fait Michel Pébrot et Yvon Gattaz, qui sont membres de l'Académie des sciences morales et politiques, ont suscité un rapport de l'Académie des sciences morales et politiques. Donc ils ont en fait donné à 5 universitaires de classe internationale, il y avait Tony Atkinson et d'autres, des programmes de SES et des manuels de SES, et très rapidement, ceux-ci ont fait un rapport, et qui se conclut dans la synthèse de Schiapori, par « on ne peut pas exclure le fait que cet enseignement soit néfaste ». Voilà. Donc ça va très très loin, dire que cet enseignement est néfaste. Alors les critiques me paraissent contradictoires, puisque en fait on s'aperçoit que d'un côté on reprocherait un manque de concret et un manque de proximité par rapport à un terrain des entreprises qu'il faudrait arriver à repérer. Enfin, il y a un peu l'argument du terrain qui ne ment pas, quelque part, peut-être. Et de l'autre côté, une critique qui viserait au contraire un manque de théorie, un manque de caractère abstrait de cet enseignement, un enseignement qu'il faudrait recentrer sur l'acquisition des fondamentaux en économie et en sociologie pour évacuer peut-être des questions contemporaines qui permettent d'utiliser ces notions-là. Alors, par rapport à ça, donc très rapidement, donc, quelles évolutions ont été envisagées depuis ces critiques-là? Pour faire face à ces critiques, Xavier Darcos a commandé donc un audit à une commission qui a été dirigée par Roger Guenry. Donc une commission qui a fait, on va dire, un bilan positif, c'est le bilan que j'ai tracé là, mais en même temps aussi quelques critiques. Une partie de ces critiques est partagée d'ailleurs par l'association des profs de SES. Je signale que nous sommes aussi depuis longtemps critiques sur des programmes que nous considérons comme exagérément ambitieux et trop encyclopédiques, par exemple. Mais avec donc d'autres éléments sur lesquels il y avait parfois des différends, mais qui ont été un petit peu clarifiés par la suite. Donc suite à ça, en fait, il y a eu deux grandes évolutions. D'abord sur les structures, donc avec la réforme Châtel, donc depuis l'an passé, une évolution sur les structures et en même temps des programmes qui ont été rénovés en moins d'un an. En fait, on a rénové les programmes de seconde et de première de manière assez rapide. Alors très rapidement, les évolutions de cet enseignement aujourd'hui sur la seconde. Donc les SES restent un enseignement optionnel en seconde. Alors c'est un peu une particularité, les SES en fait c'est le seul enseignement central d'une des trois séries générales qui est optionnel en seconde. Tous les autres enseignements sont obligatoires. Et donc en fait on a une progression quand même, c'est que le Luc Châtel a généralisé l'enseignement de l'économie au sens large. C'est-à-dire que tous les élèves doivent choisir aujourd'hui en seconde, sur un volume de 1h30 seulement de cours, auparavant il y avait 2h30, soit un enseignement de sciences économiques et sociales, soit un enseignement d'économie-gestion. Voilà. On a 1h30 par semaine, sachant que donc, des nouveaux programmes sont sortis pour faire cet enseignement qu'on appelle un enseignement d'exploration aujourd'hui, c'est un enseignement d'exploration. On a des programmes qui sont plus ambitieux que les programmes précédents, des programmes par exemple qui introduisent des notions statistiques comme les notions d'élasticité, qui ne sont pas évidentes pour des élèves de seconde. Voilà, ça suppose de savoir calculer les taux de variation, ça suppose de savoir faire un rapport entre les taux de variation, donc ce qui est loin d'être évident pour des élèves de seconde. Et surtout, c'est un contenu qui est démesuré compte tenu de l'horaire. Et le retour qu'on a à l'Association des professeurs de sciences économiques et sociales, c'est que déjà, les programmes ne sont pas applicables. C'est-à-dire qu'en fait, chacun fait sa cuisine de son côté, et les inspecteurs en ont bien conscience, parce que on a même des collègues à qui des inspecteurs ont déjà reproché de trop définir certaines notions, de définir les notions de revenus disponibles, de faire calculer un revenu disponible des ménages. Maintenant, on reproche ça à des collègues, on dit non, en seconde, il s'agit de survoler maintenant. Essentiellement, on fait du survol, c'est exactement ce que reprochait le rapport Guenry, c'est on fait du survol sans chercher à assimiler véritablement des notions à partir de questions qui peuvent motiver les élèves. Donc d'un côté, en seconde, du survol en 1h30, très rapidement comme ça, et sans devoir rentrer dans le détail. Et maintenant, en première et en terminale, donc du côté des horaires, ça n'a pas beaucoup évolué, je ne vais pas rentrer dans le détail, on reste à peu près pareil. Et par contre, les programmes aussi ont été changés. Alors les programmes, il faut savoir qu'ils ont été faits en 1 mois et demi, donc c'est une première. On n'a jamais vu des programmes du secondaire, donc c'est vrai dans toutes les disciplines, ce n'est pas propre au SES, mais il me semble qu'on n'a jamais vu donc seconde puis première réformée en un mois et demi, donc en 4 ou 5 réunions à peu près, donc c'est quand même très rapide. Mais la particularité des sciences économiques et sociales, c'est que ces programmes ont fait une refonte totale de ces programmes. Une refonte totale de la manière dont en fait les sciences économiques et sociales étaient enseignées depuis des années. Alors on peut se demander, il y a une certaine contradiction entre une refonte globale et le peu de temps qui a été consacré à la réflexion sur ces programmes. Alors pour brosser très rapidement, et puis je répondrai peut-être aux questions pour laisser la parole aux autres, en gros on a des programmes qui d'abord se caractérisent aujourd'hui par une séparation stricte entre l'économie et les autres sciences sociales, alors qu'auparavant on avait des programmes qui étaient structurés sur la base de thématiques dans lesquelles parfois on ne mobilisait que de l'économie, parfois que de la sociologie, mais parfois également les différentes sciences sociales. Aujourd'hui, il y a donc grand 1 la partie économique et grand 2 la partie sociologique, avec en fin de programme quelques regards croisés. Alors ça conduit en fait à des aberrations. C'est-à-dire que par exemple, on va voir dans la partie économique la production, comment les entreprises produisent, mais uniquement sous l'aspect de la combinaison des facteurs de production. Et c'est seulement à la fin de l'année qu'on pourra voir un regard sociologique sur les organisations, sur comment le travail est organisé. Voilà, donc si des élèves nous posent des questions là-dessus, il faudra dire non, on va attendre la fin de l'année. Pareil, on va montrer les déterminants de la consommation à travers les notions d'utilité qui sont introduites là dans la boîte à outils de l'économiste, avec des préférences, et on insistera sur la subjectivité des goûts, c'est ce que dit le programme. Mais si des élèves nous posent la question de savoir quels sont les déterminants éventuellement sociologiques de ces préférences-là, là c'est absent du programme, voilà, c'est totalement absent. Et pour terminer, pour prendre un dernier exemple, on va empiler des notions, en fait, pour l'essentiel. On a un programme qui est d'un encyclopédisme jamais atteint auparavant. Nous dénoncions, et le rapport Guenry dénonçait l'encyclopédisme des programmes antérieurs, il y avait 106 notions dans le précédent programme, en 29 thèmes, et là, on monte à 128 notions, avec un petit peu moins d'heures en plus, et avec 33 thèmes. On a 4 heures à peu près par thème. Pour vous donner un exemple, on va démarrer la partie donc, économique de ce programme-là par en fait, un premier grand chapitre qui traite les 5 grandes questions que se posent les économistes. Parmi ces 5 grandes questions qu'on doit traiter en 15 heures, il y a la question de pourquoi on échange et la notion d'avantage comparatif. Et il s'agira de montrer l'intérêt de l'échange entre individus, mais également entre nations. C'est-à-dire qu'il y a une extension. Bon, évidemment, on peut montrer donc avec la parabole de Samuelson, de l'avocat et de sa secrétaire, ou de l'avocate et de son secrétaire, si on ne veut pas être sexiste. On peut bien sûr le présenter comme ça. Mais ensuite, le programme invite à généraliser aux échanges entre nations, et en ne donnant que 3 heures pour exposer ces notions-là qu'on exposait auparavant en terminale, en 10 heures à peu près, mais qu'on exposait en terminale auparavant dans un chapitre sur le commerce international, qui permettait donc de prendre le temps de voir l'utilité de cette notion. La notion est vue en début de première aujourd'hui, elle va être en septembre prochain, mais n'est pas réutilisée une seule fois dans tout le programme de première. C'est-à-dire qu'on va y passer 3 heures en début d'année de première, concrètement, mais on ne réutilisera cette notion-là qu'éventuellement en terminale et peut-être en fin de terminale. Donc on peut se poser la question, pour terminer, en fait on voit qu'il y a une logique finalement fondamentaliste, que moi j'appelle fondamentaliste, qui s'est emparée de ces programmes-là, qui consiste, alors, pour l'essentiel, parce qu'on pourrait prendre quelques chapitres où ce n'est pas le cas, pour l'essentiel à partir des notions, à empiler des notions, pour éventuellement en guise d'illustration, les illustrer par des questions contemporaines et non plus à partir de questions pour ensuite donner du sens à l'apprentissage de ces notions-là. Car évidemment, nous sommes bien convaincus qu'il y a des notions fondamentales, il y a des méthodes fondamentales qu'il faut acquérir et c'est ça qui va former le corpus d'un programme. Mais toute la question pédagogique, puisque ça va être le débat, c'est de savoir est-ce qu'il faut partir de ces questions-là pour donner du sens aux apprentissages. Moi, il me semble que la réussite de l'enseignement des sciences économiques et sociales plaide en faveur de cette conception-là d'enseignement. Ou est-ce qu'il faut empiler des notions pour ensuite, éventuellement, en fin de terminale, voir quelle est leur utilité ?